Bonjour, c'est une vie, une œuvre. Alphonse de Lamartine, de son nom complet Alphonse Marie-Louis de Prades de Lamartine, est né à Mâcon le 21 octobre 1790 et mort à Paris le 28 février 1869. Poète, romancier, dramaturge français, ainsi que personnalité politique qui participa à la Révolution de février 1848 et proclama la Deuxième République. Il est l'une des grandes figures du romantisme en France. C'est au bord du lac du Bourget qu'il rencontre l'amour de sa vie, Julie Charles, un amour impossible et tragique, car Julie est mariée et malade. Elle meurt un an après leur rencontre. De la douleur de ce drame naîtront les Méditations poétiques, publiées en 1820. Lamartine livre ses émotions les plus intimes et marque le début du romantisme. Il devient un exemple pour toute la génération romantique, de Victor Hugo à Sainte-Beuve. Aujourd'hui, Stéphane Bonnefoy et Assia Khalid signent « Une vie, une œuvre » Alphonse de Lamartine.
Je le saisis en tant qu'autorité, homme politique. Mais la personne m'échappe. Sans aucun doute attachant, incontestablement torturé, mais présent. Actif, conscient des réalités, conscient d'une situation chaotique dans laquelle sont plongés les contemporains. Nous sommes au lendemain de l'épopée napoléonienne, au surlendemain de la Révolution, et la présence de la Révolution est là. On ne sait pas très bien où on va. Dieu n'est plus tout à fait ce qu'il était, pas encore mort, mais les institutions ecclésiastiques sont très mal en point. Tout est défait. Tous les contemporains sont d'accord pour considérer qu'il faut tout reconstruire. Mais comment? Ils ne le savent pas encore.
Alphonse de Lamartine, La politique lyrique. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Assia Khalid.
En quel éclatant caractère ce grand nom s'offrit à tes yeux? Tu vis ma bonté sur la terre, tu lus ma grandeur dans les cieux. L'ordre était mon intelligence, la nature ma providence, l'espace mon immensité. Et de mon être ombre altérée, le temps te peignit ma durée, et le destin ma volonté.
1820, tu m'adoras dans ma puissance. Publication des Méditations.
Tu me bénis dans ton bonheur. En ce temps-là, aucun poète ne se serait permis d'appeler les choses par leur nom. Il fallait avoir un dictionnaire mythologique sous son chevet, si l'on voulait rêver des vers. Je suis le premier qui ait fait descendre la poésie du Parnasse et qui ait donné à ce qu'on nommait la muse, au lieu d'une lyre à 7 cordes de convention, les fibres mêmes du cœur de l'homme, touchées et émues par les innombrables frissons de l'âme et de la nature.
Alors l'impact des méditations, ça a été une onde de choc, ça a été un véritable séisme et tout à fait involontaire, puisque Lamartine n'avait pas conscience qu'il allait révolutionner à ce point la poésie.
Aurélie Fouglia-Loiseleur.
Lamartine ne change pas les règles de la poésie française, sa poésie reste une poésie métrique, prosodique, une poésie qui chante. Donc il se situe dans une certaine tradition de poésie religieuse, élégiaque. Mais en même temps, il la réinvente de l'intérieur. Il fait descendre la poésie. Et c'est un mouvement qu'on peut suivre à travers tout le XIXe siècle. La poésie descend. Là, elle descend du Parnasse, de l'Olympe, elle descend de la mythologie antique, elle descend de sommets qui la détachaient du réel, et elle descend vers le cœur de l'homme. Donc on peut dire que le lyrisme va s'intérioriser et le corps humain va devenir l'instrument de la poésie, le cœur. La poésie va jouer à même le cœur de l'homme. Et c'est cela la révolution, et c'est ce qui fait que la poésie lamartinienne a pu parler à un si grand nombre de cœurs sensibles, de personnes. Elle a pu toucher. Elle a pu être cette parole volatile, facilement propagée, qui a fait que tout le siècle s'est mis à parler le lamartinien. Lamartine dit lui-même qu'il reçoit beaucoup de courriers des lecteurs et que ce sont des lecteurs humbles, des lecteurs populaires. Et c'est vrai qu'il va élargir fabuleusement ce spectre de gens touchés, de cœurs touchés par la poésie, peut-être une façon d'annoncer ensuite ses prises de position politique.
La pensée générale, la pensée politique, la pensée sociale domine et oppresse chaque pensée individuelle. Nous voulons la déposer en vain. Elle est autour de nous, en nous, partout. L'air que nous respirons nous la porte. L'écho du monde entier nous la renvoie. En vain, nous nous réfugions dans le silence des vallées, dans les sentiers les plus perdus de nos forêts. Le souvenir de ce monde mortel qui tremble sous nos pieds, les soucis du présent, la prévision de l'avenir, nous atteignent jusqu'à ses hauteurs mêmes. Une voix importune et forte, une voix qui descend du ciel comme elle s'élève de la terre, nous dit que ce temps n'est pas celui du repos, mais que si l'on ne veut pas être moins qu'un homme, on doit descendre dans l'arène de l'humanité et combattre, et souffrir, et mourir s'il le faut avec elle et pour elle.
On peut considérer que Lamartine a vraiment inauguré le romantisme français.
Alain Vaillant.
C'est-à-dire, si l'on voulait définir le romantisme, c'est l'effort pour conjoindre l'idéal et le réel, pour le dire comme ça. Hein, une sorte de quête de l'absolu, de synthèse entre ce qui relève du monde matériel et du monde idéal. Alors certains romantiques ont essayé de ramener l'idéal vers le réel, c'est ce qu'a fait Victor Hugo, tandis que Lamartine est vraiment l'incarnation de ce romantisme où le réel est aspiré par l'idéal, regarde vers le ciel, vers les archanges, vers une présence de Dieu auquel il croit plus ou moins. Et donc c'est cette sorte de spiritualisme romantique que Lamartine fonde en France et qu'il va prolonger dans la vie politique jusqu'en 48. Et de ce point de vue-là, il est vraiment à la fois le père fondateur de ce romantisme idéaliste et aussi le bouc émissaire de tous ceux qui n'en voudront plus, comme par exemple Baudelaire ou Rimbaud, etc.
Le parcours de Lamartine est un parcours où la poésie et la politique sont intriqués, sont noués ensemble et inséparables dès le départ. Barbé d'Aurevilly, qui est très critique sur le parcours politique de Lamartine, dit que Lamartine était un, qu'on ne peut pas séparer le Lamartine poète du Lamartine politique. Il dit qu'il était aussi un et indivisible que la République à laquelle il crut quelques jours. Alors, un peu plus tard, c'est dans les années 49, quand il a déjà beaucoup vécu, quand il a déjà fait sa grande proposition politique et connu donc des revers et des succès aussi. Donc Lamartine va essayer de penser justement dans le temps la poésie et la politique en fonction d'âge de la vie, de chanter quand on est jeune, ensuite de descendre dans l'arène politique, d'être dans la vie active pour ainsi dire et de se battre, et puis de revenir à la poésie quand on est vieux et qu'on chante Dieu de façon très épurée, de façon mélancolique. Donc il a ce schéma en tête et c'est un schéma qui vient pour lui de l'Antiquité. Il pense à ce qu'il appelle des hommes complets. Et il va parler de Cicéron, de César, c'est-à-dire qu'il ne sépare pas la littérature des autres activités intellectuelles, humaines. Donc il est bien un et indivisible en ce sens.
Dans l'après-révolution, se penser poète, c'est s'accorder un rôle philosophique et politique. Enfin, le romantisme, ça a d'abord été, à l'origine, la revendication pour une poésie philosophique. Si son premier recueil s'appelle « Méditation poétique », c'est bien sûr par référence à Descartes. Et donc, il est considéré comme le poète métaphysique et ensuite le poète politique. Mais donc, il n'y a pas de dissociation possible à cette époque entre le poétique et le politique. Et le poétique est la voie d'entrée dans le politique, singulièrement sous la Restauration, puisqu'il faut se rappeler que Lamartine fait partie de ce petit groupe de poètes catholiques et royalistes dont le pouvoir a besoin pour les opposer à la tradition de la philosophie des Lumières.
Je ne vois aucun signe de décadence de l'humanité. Je ne vois aucun signe de décadence dans l'intelligence humaine, aucun symptôme de lassitude ni de vieillesse. Je vois des institutions vieillies qui s'écroulent, mais des générations rajeunies que le souffle de vie tourmente et pousse en tous sens, et qui reconstruiront, sur des plans inconnus, cette œuvre infinie que Dieu a donnée à faire et à refaire sans cesse à l'homme, sa propre destinée. Dans cette œuvre, la poésie a sa place, quoique Platon voulût l'en bannir. C'est elle qui plane sur la société et qui la juge, et qui, montrant à l'homme la vulgarité de son œuvre, l'appelle sans cesse en avant, en lui montrant du doigt des utopies, des républiques imaginaires, des cités de Dieu, et lui souffle au cœur le courage de les atteindre.
Lamartine est non seulement un homme démocratique, mais c'est également un homme complet, comme il n'en existe plus aujourd'hui, en ce sens que ce n'est pas un spécialiste.
Dominique Dupart.
On écrivait des vers, on écrivait des lettres, on pouvait écrire des récits. Lamartine a été un grand polygraphe, il avait le don de la prose comme le don des vers.
Lamartine n'est pas que poète, il écrit Un voyage en Orient, il écrit du roman, de l'autobiographie, et puis aussi une histoire de la Turquie, de la Russie, et puis un cours familier. Il n'arrête pas d'écrire, il est polygraphe. Donc voilà des écrivains qui se sont investis d'un rôle politique, et donc ce sont les mages romantiques. Et on peut rappeler qu'Orphée, la figure mythologique qui incarnait le poète, était aussi un grand législateur. Donc c'est aussi quand même un héritage venu de l'Antiquité de dire que le poète, par le pouvoir de son chant, peut aussi légiférer dans la cité, que ce sont des qualités qui s'accompagnent et qu'il peut avoir ce rôle législateur dans la cité. Donc Lamartine s'inscrit aussi dans une tradition qui remonte à Orphée finalement, et il en est conscient, il se revendique souvent de cette figure.
Il était jeune, il avait 30 ans lorsqu'il avait publié ses méditations en 1820.
Henri Guillemin.
Il avait été entré au service diplomatique.
1969.
Il avait servi dans la diplomatie jusqu'à 1830, il n'était pas d'ailleurs très content. On l'avait nommé secrétaire d'ambassade et même premier secrétaire à Florence, mais il aurait désiré être ministre de France. Et il avait vu des camarades de son âge qui avaient déjà des postes de ministre et il ne l'avait toujours pas. Si bien qu'en 1830, il avait 40 ans, il venait d'être élu à l'Académie française. Il estimait qu'on ne lui avait pas rendu justice dans ce département. Et il avait décidé de démissionner. Alors arrive précisément la révolution que vous savez, les fameuses trois glorieuses du Jantin, le remplacement par Louis-Philippe de la branche Bourbon. Et Lamartine décide de rompre avec le nouveau régime. Il ne servira pas un usurpateur qui s'appelle Louis-Philippe. Il dit que c'est par fidélité légitimiste et nous savons très bien aujourd'hui que c'est par ambition. Le jeune Lamartine, enfin jeune 40 ans, a décidé de faire de la politique.
Il a donc assez longtemps une expérience de politique, mais à l'étranger. C'est la France vue de loin, il mûrit des idées, il y a cette forme de détachement par rapport au régime qui lui fait du bien aussi. Et puis, l'âge de l'éligibilité, c'est 40 ans à l'époque, donc il attend. Il n'est pas éligible, il essuie une première défaite aux élections avant son départ en Orient.
Dans quelle année ?
En 1832, et c'est pendant son absence qu'il est élu à Bergue. Il est élu député à Bergue, donc quand il rentre d'Orient, il peut prendre ses nouvelles fonctions, et c'est là qu'il entre réellement en politique. Donc comme il a été élu en son absence, il va faire ses premiers pas à la Chambre des députés, et il découvre, il s'initie, c'est un novice. Et c'est assez amusant parce qu'au début il est un peu écœuré, et puis il prend vite ses repères, et il devient une grande voix de la Chambre, toujours à distance par rapport au parlementarisme. Il est extrêmement critique, toujours par rapport au jeu des partis, par rapport à ce qu'il appelle des factions. Lamartine va se maintenir pendant des années dans ce qu'il appelle une indépendance énigmatique. Il n'est visiblement d'aucun parti, ou en tout cas, il se situe de façon très indépendante sur l'échiquier politique.
Non, sous quelque drapeau que le barde se range, la muse sert sa gloire et non ses passions. Non, je n'ai pas coupé les ailes de cet ange pour l'atteler hurlant au char des factions. Non, je n'ai point couvert du masque populaire son front resplendissant des feux du Saint-Parvis, ni pour fouetter et mordre, irritant sa colère, changer ma muse en Némésis. Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle, s'il n'a l'âme et la lyre et les yeux de Néron, pendant que l'incendie en fleuve ardent circule des temples au palais, du cirque au panthéon. Honte à qui peut chanter pendant que chaque femme, sur le front de ses fils, voit la mort ondoyer, que chaque citoyen regarde si la flamme dévore déjà son foyer. Un jour, de nobles pleurs laveront ce délire, et ta main, étouffant le son qu'elle a tiré, plus juste arrachera des cordes de ta lyre la corde injurieuse où la haine a vibré. Mais moi, j'aurais vidé la coupe d'amertume sans que ma lèvre même en garde un souvenir. Car mon âme est un feu qui brûle et qui parfume ce qu'on jette pour la ternir.
La poésie tente à entacher sa politique, à la rendre suspecte de grands sentiments, de phraséologies un peu musicales et verbeuses. Donc le poète est suspect et il le sait. Il va devoir donc corriger cette image, lutter contre cette image. Donc il le dit, hein, honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle. Il y a une urgence. Et Lamartine est très sensible à cette urgence. Il y a un opuscule de lui qui est fondateur et qu'on connaît assez mal, c'est sur la politique rationnelle, qui date de 1831. Et il dit en effet qu'il se sent requis, hein. Il y a cette tâche à accomplir qui lui appartient, et il s'offre. Il s'offre parce qu'il ne peut pas faire autrement, il est un homme de la rénovation sociale. Il y a une belle expression aussi où il dit qu'il veut être un homme du temps. Alors c'est une expression très large, mais il est aussi un homme de son temps.
Lamartine, c'est l'homme démocratique par excellence. C'est un homme qui s'est construit en même temps que la démocratie en France s'est construite. Et donc, pour l'entendre, pour entendre ses textes, pour qu'il reste toujours audible aujourd'hui, il faut toujours s'attacher à articuler sa voix avec la voix démocratique. Il lui appartient d'avoir incarné cette voix démocratique en de multiples figures. Il a même parlé au nom des chiens. Lamartine. Mais avant de parler au nom des chiens, il a parlé au nom des forçats. Il a parlé au nom des enfants trouvés. Il a parlé au nom des femmes. Il a parlé au nom des ouvriers. Il a parlé au nom de tous ces peuples, ces différents peuples, ces peuples mineurs, on dirait aujourd'hui, qui ont émergé au sein de l'espace démocratique, qui s'est construit, évidemment, depuis la Révolution française et avec Lamartine, plus précisément, depuis 1830.
Comment il a pu incarner ce peuple, finalement, dont il n'était pas issu lui-même?
Alors, ce qui est très intéressant avec Lamartine, à la différence d'un Michelet, c'est que Michelet se dit fils du peuple. C'est en tant qu'il est le fils du peuple, puisque Michelet était ouvrier typographe quand il était enfant. Et donc, quand il écrit Le Peuple, Michelet, il l'écrit en tant que le fils du peuple, ce qui lui autorise d'avoir une voix plus incarnée, par exemple, que celle des romanciers, dont Balzac, dont il fait la critique. Il dit Balzac ne parle pas du peuple, parce qu'il n'est pas le fils du peuple. Lamartine, c'est pas la même chose. Quand on lit les biographies et les autobiographies de Lamartine, Lamartine a écrit un nombre considérable d'écrits autobiographiques qui sont souvent d'ailleurs très ressassants. Le point commun entre tous ces textes est qu'il dit qu'il a eu l'enfance de Rousseau. Il a eu l'enfance d'un petit enfant qui courait pieds nus dans les villages. Peut-être qu'il faut imaginer, c'est difficile pour nous, avant la révolution industrielle ou à ses commencements, des aires de sociabilité villageoise au sein desquelles les différences sociales, les hiérarchies n'étaient point aussi appuyées et aussi accentuées qu'aujourd'hui. Et en ce sens, le petit Lamartine n'avait pas la morgue des puissants, quoiqu'il était lui-même l'héritier d'une famille aristocratique. Et lorsqu'il explique de manière autobiographique son engagement politique, cet engagement, il l'origine dans cette société, cette sociabilité ouverte, indépendamment des luttes de classe, des rapports de pouvoir et de conflit. C'est très important parce que Lamartine est un contemporain de Marx. Il a lu le manifeste du Parti communiste. Il est tout à fait au courant des théories socialistes qui sont en cours, des théories de socialisme insurrectionnel, également de l'horizon révolutionnaire possible. Mais quoi qu'il soit tout à fait en conscience, qu'il écrive et qu'il parle en conscience de ces théories-là, il existe selon lui un espace politique possible au sein desquels, au-delà de la lutte, au-delà du conflit, au-delà du dissensus, il y a une possibilité de construire un espace politique avec tous.
La révolution de 1830, c'est la suite logique de l'inachèvement de la révolution de 1789.
Michel Rio-Sarcé.
Et donc, c'est aussi la reprise, en quelque sorte, des espoirs qui avaient été très largement sous le boisseau pendant l'épopée napoléonienne, et disons le mot, pendant une forme de dictature, quoi. Et cette révolution a été pratiquement une révolution joyeuse. En 1848, par exemple, on va se souvenir en février, il fait très froid en février 48, on va se souvenir des journées de juillet, 35 degrés, rue Saint-Antoine. Et c'est les trois glorieuses, si vous voulez, ça dure très peu de temps. Et donc c'est un moment où il y a cette prise de conscience que tout un peuple a été laissé de côté.
Alors en France, ce qui prévaut, c'est ce qui s'appelle la question sociale. Émerge ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle, ce que Michelet a appelé un peuple. Avec la révolution industrielle, s'invente une population étrange, bizarre, qu'on appelle les barbares, qu'on traite au rang d'animaux. Une population au sein de laquelle un fort taux de mortalité prévaut, puisque le travail des enfants est terrible. Cette frange la plus pauvre et la plus misérable de la population française ne concernait que quelques millions de personnes. En réalité, le modèle était toujours mi-rural, mi-industriel. Les ouvriers pouvaient certes travailler à la fabrique, à la manufacture, à un certain moment de l'année, et à d'autres, continuer de cultiver leur potager, etc., etc. Enfin, un champ, ou voilà. Et puis, il y a une ruralisation de l'industrie qui n'apparaît pas dans les discours politiques de l'époque. On se concentre sur cette population de barbares dont les enfants meurent à tour de bras puisqu'ils commencent à travailler dès l'âge de 5 ans, dès l'âge de 6 ans, des 10 heures, 13 heures par jour. Je renvoie à l'enquête d'Engels en Angleterre, aux travaux de Marx, qui sont aussi menés de manière différente en France par d'autres auteurs. Lamartine, comme les autres, a un regard ambivalent puisque d'un côté, il en a peur et il participe avec les autres de cette stigmatisation de ces insurgés avec les couteaux entre les dents. Et de l'autre, il réfléchit très concrètement à la manière dont on peut les réintégrer au sein du peuple, le bon peuple. Hein, il y a le mauvais peuple toujours et le bon peuple. Il essaye donc d'en faire lui aussi un bon peuple. Et ce n'est pas en édictant des lois qui les stigmatise et qui les discrimine, qu'on arrivera à construire la France.
Et donc, Lamartine, dans cette ambiance, il va tenter de répondre justement, non, ce ne sont pas des barbares, il faut pouvoir les intégrer, il faut les prendre avec nous, mais dans des conditions particulières. Il annonce, de fait, la réforme qui va avoir lieu, c'est-à-dire de l'école de Guizot en 1832, l'école publique, c'est lui qui a mis en place l'école publique. L'école publique avait pour but de moraliser la population, de faire en sorte que tous ceux qui travaillaient, qui avaient très peu de temps pour aller à l'école, puissent en fait désigner leurs représentants, déléguer leur pouvoir. Mais pour déléguer leur pouvoir, il fallait leur donner un minimum de connaissances pour qu'ils reconnaissent les capacités supérieures, pour reprendre une expression de Guizot. Et donc, Lamartine participe de ça. Lorsqu'il est à l'Assemblée nationale, en 34-35, il va d'ailleurs œuvrer, y compris pour l'éducation des filles, puisqu'il va présenter la pétition de Mademoiselle Mazure, qui demande l'ouverture d'une école normale d'institutrice. Et donc, l'école était l'accès possible à l'espace public et l'accès possible à la citoyenneté. On peut dire que Lamartine est un humaniste d'une certaine manière. Il y a énormément de philanthropes qui sont comme lui, c'est-à-dire qui se penchent sur la situation des classes les plus défavorisées. Ne pas oublier qu'il vit à un moment non seulement où la misère est un véritable fléau, mais il y a aussi des épidémies. Il y a une grande épidémie de choléra en 1832 qui commence à toucher à Paris les quartiers populaires, mais qui petit à petit se répand un petit peu partout. Donc, cette misère, cette hygiène qui est mise en cause avec des conditions de vie au quotidien qui sont absolument difficiles. Donc tout ça fait qu'on est sensible à cette misère, mais bien entendu, on appartient à une certaine classe. C'est-à-dire qu'on regarde cette autre classe, cette basse classe, avec une forme de condescendance. Nous sommes dans le grand moment de la philanthropie.
Le caractère propre et magnifique de l'époque extraordinaire où nous vivons, c'est cette prodigieuse activité des esprits qui emporte les classes pensantes dans un mouvement ascensionnel de plus en plus accéléré. Si ce mouvement n'était pas communiqué et suivi en bas, l'harmonie serait détruite. La société se romprait en deux et l'inégalité des conditions, supprimée par l'esprit de l'Évangile et par la Révolution française, se rétablirait par l'inégalité des intelligences. Nous ne le voulons pas. Nous vivons et vous allez vivre dans une société démocratique. Une société où tout le monde est peuple. C'est-à-dire une société où tout le monde a intérêt à moraliser, à agrandir, à dignifier la condition du peuple. Nous voulons faire descendre la lumière partout où nous avons osé instituer la liberté.
Ma conviction est que Lamartine a inventé une voie en politique qui est aujourd'hui tout à fait majoritaire. Aujourd'hui, nos hommes politiques s'adressent à nous en nous parlant de façon proche. Ils recherchent une proximité. Cette familiarité, elle vient du romantisme. Elle vient du romantisme entré en politique. Ce qu'a inventé Lamartine, c'est une voie politique proche des représentés. Et ça, c'était énorme. Parce que si vous comparez l'éloquence révolutionnaire, l'éloquence de la Restauration, et que vous comparez avec l'éloquence inventée, cette éloquence lyrique inventée par Lamartine, vous voyez que soudainement s'invente la fabrique d'une voix commune qui fait que, en dépit que ce soit un représentant, en dépit que ce soit ce patronus, ce grand homme, ce Lamartine, ce grand poète, eh bien, quand il parle, à travers sa voix, c'est la voix de tous ou la voix de ces peuples mineurs qui s'incarnent. Si bien que ce qu'a inventé la petite fabrique oratoire démocratique qu'a inventé Lamartine et qui a été défini à l'époque comme étant une manière de parler par la fenêtre. C'est-à-dire on parle à la chambre et en fait on parle par la fenêtre de la chambre. Ce qui a été inventé, c'est une forme de double destination oratoire qui fait qu'en parlant aux députés, en réalité, je m'adresse à tous. C'est-à-dire que non seulement Lamartine ventriloque les peuples mineurs, c'est-à-dire en les faisant parler au sein de son discours, mais les peuples mineurs, en face, s'approprient les discours et les parlent aussi et les transmettent. Et donc vous avez une circulation de la parole qui est proprement une circulation lyrique et que Lamartine a décrit comme une circulation du souffle révolutionnaire dans l'histoire des Girondins. Il a essayé de traduire une pensée de la voix, une pensée du souffle en une pensée politique.
Les poètes romantiques de la génération de 1820,
Alain Vaillant,
espèrent de la liberté de la Révolution, si je puis dire, non plus de faire des poèmes pour le roi comme sous la Restauration, mais désormais que leurs poèmes soient lus par tout le peuple. Et ils comprennent très vite, à leur grand désarroi, que ce que demande ce public, nouveau public de lecteurs, c'est pas entendre des poèmes, mais c'est de lire des journaux. Et là, il y a de très beaux textes de Lamartine pour dire clairement que, au fond, la nouvelle poésie, la nouvelle littérature, c'est celle du journal. Et que écrire dans un journal, c'est prolonger sous une forme moderne ce que faisait le poète dans le temps d'avant le journal. Et ça, Lamartine, c'est vrai qu'il est de ceux qui ont le mieux compris, je dirais, la force de progrès de la presse à un moment où les écrivains, au contraire, méprisent la presse. Hein. Vous vous rappelez les discours de Balzac, une sorte de dégénérescence de la culture à cause du journal, ce qui évidemment est une vue à très très court terme. Parce que la presse est le principal vecteur de diffusion des idées, principal vecteur du débat politique, etc. dans cette première moitié du 19e siècle. Et Lamartine a été un créateur de presse et de journaux.
Comme Lamartine est l'homme démocratique par excellence,
Dominique Dupart,
son premier combat devait être celui de la lutte contre ce qu'on a appelé la politique de résistance. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement en 1830 qui arrive, qui est plutôt ouvert, et puis qui, voyant que la révolution ne pourrait ne pas s'arrêter là, mais aller vers une démocratisation accrue de l'espace, je rappelle que la monarchie de Juillet est un régime censitaire, c'est-à-dire que ont le droit de voter ceux qui payent le cens, c'est-à-dire les plus riches. C'est une sorte de plutocratie moderne. Et donc, voyant que la démocratisation de l'espace est en marche et qu'on réclame toujours plus de liberté publique, D'emblée, le gouvernement Guizot met en place ce qui s'appelle une politique de résistance et qui, en réalité, implique une restriction des libertés de la presse. Et donc, le premier grand discours de Lamartine est un discours sur les lois de la presse, au sein duquel il défend, avec une énergie et une intensité qui est remarquable et qui a été remarquée, l'extension des libertés publiques. Les libertés publiques, les libertés démocratiques, à cette époque, c'est pas simplement la presse, hein, c'est aussi le théâtre. Ce sont aussi le droit d'association, le droit de réunion. Ça concerne aussi les petits crieurs de journaux dehors, hein, qui crient les titres des journaux, puisqu'il y a une extension, une ouverture extraordinaire de l'espace médiatique, une création de presse sans précédent, d'une richesse infinie. Donc ces petits crieurs qui hurlent les titres engagés, on veut les faire taire. On veut rétablir les lois de censure sur les théâtres. On veut fermer les journaux les plus séditieux, c'était le terme à l'époque. Et Lamartine, quoi qu'il était, hein, c'est-à-dire un ancien légitimiste, hein, pas un révolutionnaire quand même, hein, en 1834, hein, voilà, hein, eh bien, a défendu mordicus ses libertés publiques.
Que j'étais loin de m'attendre à cette loi de mort, à cette loi de masque contre la presse, à cette loi qui restera une date dans les annales des aberrations, des ingratitudes humaines. Combien de fois n'ai-je pas partagé vos justes indignations? Combien de fois n'aurais-je pas été tenté de la maudire moi-même et de lui souhaiter un bâillon de fer? Si je ne m'étais pas souvenu que bâillonner la presse, c'était bâillonner à la fois le mensonge et la vérité. C'était bâillonner l'esprit humain.
Face à la révolution de 1830 et à l'établissement, grosso modo, d'une France bourgeoise, libérale, il y a en gros trois options. L'option réactionnaire, qui est celle de Balzac et de beaucoup d'écrivains comme Gautier, ah, c'était mieux avant, la monarchie de droit divin, il y avait l'ordre, les vraies convictions, etc. La conviction socialiste avec Saint-Simonien, les fourriéristes, etc. Et puis, il y a, je dirais, une option humanitaire, philanthropique, remplie d'idéalisme social. Ce que représente Lamartine, avec des variantes, Victor Hugo n'est pas très loin, et d'autres. Donc il représente une sorte d'option, comment dirais-je, à la fois de centre-gauche et de revendication éthique, qui est assez caractéristique aussi de l'époque, dès lors qu'on ne veut pas mener une action clairement républicaine de contestation, et forcément par la rue d'ailleurs, puisqu'on n'a pas le droit d'être républicain à cette époque. Donc dans son cas, il n'y a rien de singulier. Ce qui est singulier, c'est l'éclat qu'il va donner à cette position. Enfin, il est exceptionnel, non pas par ses choix, mais par la manière d'incarner ses choix.
Alors, ce n'est pas un théoricien politique. Ce n'est pas un philosophe. La contrepartie de n'être spécialiste de rien et d'être un polygraphe, c'est aussi peut-être un manque de rigueur dans la construction des concepts politiques. Et donc, il théorise après coup, ou il théorise avant coup, par exemple dans son opuscule sur la politique rationnelle, mais quand on se penche véritablement dans la lettre du texte, en réalité, les propositions politiques qu'il offre sont très vagues. C'est plutôt un horizon, une promesse d'avenir. Et cet horizon et cette promesse d'avenir, elle est partagée par tous ses contemporains.
Il n'expose pas des théories, il n'expose pas des idées, mais il veut créer chez celui qui l'entend ou qui le lit une émotion face à la pensée. Et ce que peut-être on lui reprochait, c'est que oui, donc voilà, Lamartine nous ouvre notre cœur et notre sensibilité à la pensée, mais alors on attend cette pensée-là. Il y a un décalage un petit peu étrange entre cette puissance d'émotion intellectuelle qu'il suscite et peut-être la minceur de la chose intellectuelle elle-même une fois que l'émotion est créée.
Sans doute, à un moment, Lamartine s'est dit qu'il n'arrivera plus à rien en restant dans le parti du gouvernement, quoiqu'il incarnait une voix discordante au sein de ce parti du gouvernement, et qu'il a très habilement décidé de passer dans l'opposition au moyen d'un certain nombre de discours qui ont fait date, qui ont été absolument oubliés aujourd'hui, mais dont les formules très fortes, la France s'ennuie, le gouvernement est une borne y suffirait pour y définir le gouvernement comme une borne, c'était un scandale, pas possible de définir simplement juste comme une pierre au bord du chemin, quoi, une bûche. Aujourd'hui on aurait dit c'est une bûche, vous êtes des bûches, lui dit non, vous êtes une borne.
Quoi ? Paris fortifié, Paris ville de guerre, Paris dominé par 20 forts,
Paris cerné par 2400 canons, servi par 10 ou 12 000 canonniers d'une milice quelconque. Paris citadelle de la France. Paris dans un tel état serait le dernier asile que la liberté voudrait habiter.
Donc il a, voilà, au son d'un certain nombre de discours qui ont fait date, notamment au moment du débat sur les fortifications de Paris, puisqu'il est question de fortifier Paris pour défendre Paris de ses possibles agresseurs étrangers, mais en réalité aussi pour défendre Paris de son front intérieur, c'est-à-dire de ses insurgés susceptibles, avec leur couteau entre les dents, de faire des bêtises. Il s'est placé résolument à la frange d'extrême gauche de l'Assemblée. Quand on est pour la démocratie, pour une réforme de la démocratie vers plus de droits, à l'époque, on est un partisan, on est radical. Donc il a une radicalité démocratique qui le fait s'emparer de questions sociétales et les transformer en objets partisans, c'est-à-dire en objets politiques en vue de gagner des intérêts dans la conquête du pouvoir. Alors, il y a des questions dont il s'est emparé qui me tiennent particulièrement à cœur. Bien sûr, nous avons la question abolitionniste de la peine de mort et de l'esclavage. Sur l'esclavage, il a été absolument remarquable, puisqu'au sein de nombreux discours tenus à la Chambre et hors de la Chambre, il a quand même réussi à chaque fois à se présenter comme l'avocat d'office, comme il disait. Les seuls qui n'ont pas de représentants pour parler pour eux, ce sont les esclaves.
Messieurs, à qui profite l'émancipation ? D'abord aux esclaves, qui recouvrent la liberté, la famille, la propriété, la vie humaine. Ensuite aux colons, qui échangent une propriété périlleuse, menaçante, sans légitimité devant Dieu ni devant les hommes, contre une propriété de droit commun, contre une propriété qui ne fait ni rougir ni trembler son possesseur. Enfin, à qui profite l'émancipation ? À la société, qui rachète le principe inaliénable de la dignité humaine et qui se réhabilite à ses propres yeux. La société, le colon, l'esclave ont donc un égal intérêt à l'émancipation.
Il faut savoir que Lamartine lisait énormément Balzac et qui réussit dans ses discours à faire des pages romanesques de descriptions de peuples mineurs, dont ensuite il ventriloque les voix qu'il incarne. C'est très important. Et il le fait de façon très étrange, puisqu'il parle toujours à l'opposition. C'est-à-dire qu'il parle toujours à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, Lamartine, quand il est au sein de la Chambre, parce qu'il tente toujours désespérément de les convaincre. Et donc il emploie aujourd'hui des arguments qui pourraient nous paraître un peu troubles, puisqu'il défend l'esclavage du point de vue du gain que les esclavagistes pourraient continuer et des profits qu'ils pourraient continuer de faire en dépit même de l'abolition de l'esclavage. Il pose le problème de façon à la fois sociale, à la fois de façon humanitaire, à la fois de façon chrétienne et socialiste, et à la fois également de façon économique. Il a aussi défendu les forçats. Il a défendu des forçats de façon également très étrange et très paradoxale. C'est-à-dire qu'il est contre l'enfermement cellulaire. Les premiers discours politiques de Lamartine font partie des premiers textes qui sont absolument contre le régime de la prison. Ce qui aujourd'hui encore n'est absolument audible nulle part. Qui aujourd'hui dans l'espace public défend l'abolition de la prison ?
Toute sa politique pendant un certain nombre d'années, ça va être de s'adresser à ses camarades, à ses collègues conservateurs et de leur dire « mais ouvrez les yeux ». Il faut absolument que vous preniez des mesures. Je ne fais même pas appel à votre esprit chrétien ou de générosité, je fais appel à votre esprit de prudence. On ne peut pas maintenir une compression comme celle-là. Ça aboutira à une explosion. Et du reste, le salut de la France, même le salut de l'ordre, même le salut de la propriété, dépend de la République. Il écrit son Histoire des Girondins, discours en 8 volumes adressé à la nation, pour essayer d'habituer les gens à cette idée républicaine. À ce moment-là, la terreur est pas si loin, vous savez, 1843-1893, il y a 50 ans, quoi. Et beaucoup de gens confondent les mots république et les mots terreur. Et il va expliquer qu'il faut distinguer les deux choses. Qu'une révolution non sanglante est possible, et vous savez bien ce qu'il va faire, puisque dès qu'il sera au pouvoir, abolition de la peine de mort en matière politique.
Il
a écrit l'histoire des Girondins.
Aurélie Fouglia Loiselle.
Juste avant la révolution de février 48, et on l'a accusé de mettre le feu aux poudres. Et pour lui, il était extrêmement important de renouer avec l'énergie de 1789, moins la terreur. C'est donc un livre qui a été extrêmement important pour son époque, ça a été un succès colossal. Et donc pour lui, c'est une façon de ramener sur le devant de la scène les idéaux révolutionnaires et cette liberté à laquelle il s'est mis à croire tant.
Tout le monde l'a senti arriver, la révolution de 48. Donc Lamartine a sans doute pressenti, bien sûr, quelque chose. Après, ce n'était pas un révolutionnaire naturel. Ce n'était pas un Auguste Blanqui. Donc, oui, il a pressenti la révolution de 48. Et surtout, il a été entraîné par la révolution de 48. Je crois vraiment qu'il faut essayer de perdre l'illusion que nous avons, que nous restons des sujets autonomes, doués de libre arbitre au sein de situations révolutionnaires. Lamartine a été dépassé. Il a été dépassé. Et ce qui lui revient, c'est de ne pas avoir quitté le train en marche et d'avoir assumé la responsabilité qu'il avait de ce bouleversement révolutionnaire. Et il l'a fait de façon magistrale.
Lorsqu'en 48, le gouvernement provisoire se met en place...
Michel Rio-Sarcé.
Lamartine est une personnalité non seulement connue, certes comme écrivain, mais... reconnu aussi pour son humanisme, si bien qu'il l'est très vite sollicité pour faire en sorte de répondre à cette poussée inédite, inouïe, d'une poignée de révolutionnaires parisiens, pour prendre une expression d'un historien des années 60, une poignée de révolutionnaires parisiens impose la République du jour au lendemain. Tous les contemporains sont unanimes. 48 devait achever la révolution. Et achever la révolution, ça voulait dire mettre en œuvre les principes libérateurs, liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est la vraie République qu'ils veulent, les insurgés de février. Vraie République, vraie liberté, vraie égalité. Ils veulent que les mots deviennent vrais. Et d'ailleurs, les journaux portent ce nom, la vraie République. Et donc, il est impossible... d'aller à l'encontre de ça, on a peur. Si bien que lorsque Tocqueville se balade en février dans les rues de Paris, il voit des affiches et il est terrorisé. On veut tout bouleverser. On veut tout reconstruire. Rien, plus rien n'est en place. Et, dit-il, on imagine même mettre en cause cette relation qui existe depuis tout le temps, c'est-à-dire la domination entre hommes et femmes. C'est vous dire que cette perception d'une république qui devrait, de ce fait, aboutir au communisme, habite les consciences de ceux qui ont quelque chose à perdre.
Qu'est-ce qui s'est passé en 1848 ? Il y a eu une assemblée qui a été envahie. Quand la chambre est envahie, il faut bien que quelque chose se passe. Et là, ce qui est amusant, c'est que les modérés, les plus modérés, les Barrault, les Tocqueville, etc., se sont tournés vers Lamartine en lui disant « Sans doute, ce gars-là, cette voix-là, cette tribune-là sera en mesure, justement parce qu'elle a le soutien et l'adhésion populaire, d'arrêter un courant révolutionnaire. » Mais là, Lamartine a fait preuve de grand talent, de grande conscience politique. Il a donc inventé un discours qui est la proclamation du gouvernement provisoire, rien d'autre que la proclamation d'une dictature au sens antique, hein, puisqu'il y a une suspension du droit constitutionnel en place, auquel on substitue un autre droit. Donc, au moyen de l'assentiment, ce qu'on appelait des acclamations, Lamartine accompagne la situation révolutionnaire en proclamant ce gouvernement provisoire. Donc, il est ministre des Affaires étrangères, il est surtout la voix de février. C'est-à-dire que vont se succéder à l'hôtel de ville des centaines de députations qui viennent de la France, de toutes parts, des députations d'ouvriers, les ouvriers de Saint-Nazaire, les députations des Vénusiennes, les députations des Sourmouets, vont se succéder un ensemble de députations qui incarnent ce peuple mineur qu'il n'avait cessé d'appeler de ventriloquer au sein de sa carrière. Tout d'un coup, ils sont là, présents devant lui, et il lui adresse un discours d'adhésion au gouvernement provisoire, et lui répond en retour. Donc c'est une autre éloquence, hein, une éloquence sauvage, une éloquence qui permet une harmonie des cœurs au sein même de la situation révolutionnaire. La révolution de février est une très très belle révolution. Une révolution sensible, une révolution du cœur.
Vive la République !
Nous sommes foutus ! Du travail ou du pain !
Donnez-nous du plomb ou du travail !
Du travail ou du pain !
Du travail ou du pain !
10h du soir, ce 23 février 1848. Boulevard des Capucines. À la hauteur de notre rue Cambon, où se trouve alors le ministère des Affaires étrangères, la chaussée est barrée par le 14e de ligne. Un homme, barbu, au manteau jaune, de longs cheveux bouclés tombant jusqu'à ses épaules, crie d'une voix éraillée et avinée « Oui, mes amis, en avant !» Il va détrôner Louis-Philippe. Il avance sa torche et en menace le lieutenant-colonel. Un sergent de grenadiers épaule et tire.
En bas les communistes! En bas Blanqui! En bas Louis Blanc! Vive Lamartine!
Il va y avoir les premiers délégués qui vont être désignés, délégués ouvriers. Ils entrent par la grande porte et s'assoient sur les fauteuils des pairs au Luxembourg. Et donc, ce bouleversement, il est accompagné de toutes sortes de manifestations. Vous avez des corporations qui vont manifester. Ça défile constamment devant l'hôtel de ville. Et c'est dans ce sens-là que aller jusqu'au bout de cette République qui doit être vraie, et ça va devenir la République démocratique et sociale, eh bien, il faut aller jusqu'au symbole. Et le symbole, ça va être le drapeau rouge. Et là, ce symbole, on sait ce qu'il signifie. Et donc, on va demander, le gouvernement provisoire va demander à Lamartine, qui est un orateur extraordinaire, extrêmement subtil, particulièrement efficace, d'autant que Lamartine parle à ceux qui sont au pied de l'hôtel de ville. Il y a une foule avec des drapeaux rouges, on en a même un sur une des tours de Notre-Dame. Pendant ce temps-là, la même chose se passe à Lyon, pas oublié, c'est pas simplement à Paris. Et ce drapeau rouge, c'est presque le symbole de la République démocratique et sociale. Et là, bien entendu, les possédants prennent peur. On va donc confier à Lamartine cette tâche de renverser le symbole et obliger de prendre le drapeau bleu-blanc-rouge. Et il l'impose avec ses capacités d'orateur absolument exceptionnelles.
Citoyens, vous pouvez faire violence au gouvernement. Vous pouvez lui commander de changer le drapeau de la nation et le nom de la France. Si vous êtes assez mal inspiré et assez obstiné dans votre erreur pour lui imposer une république de partis et un pavillon de terreur, le gouvernement, je le sais, est aussi décidé que moi-même à mourir plutôt que de se déshonorer en vous obéissant. Quant à moi, jamais ma main ne signera ce décret. Je repousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang. Et vous devez le répudier plus que moi, car le drapeau rouge que vous rapportez n'a jamais fait que le tour du Champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et en 93. Et le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie.
L'un des observateurs critiques de cette séance du drapeau rouge explique que les insurgés ont applaudi Lamartine contre eux-mêmes, parce qu'il avait su retourner la foule, en quelque sorte.
Lamartine a bondi à la tribune.
La République est proclamée! Voici la liste des membres du gouvernement provisoire!
Et la foule docile s'écoule. Dans quelques heures, Paris tout entier acclamera la République. La révolution de 1848 avait vaincu.
Et il s'en est très bien sorti. Il a d'abord été vraiment entendu par tous ses contemporains, même les plus modérés, les plus réactionnaires, comme celui qui gardait la raison politique du pays, qui permettait que la barbarie ne s'installe pas, l'anarchie, etc. Et pourtant, en même temps, Lamartine discutait avec les leaders insurrectionnalistes, avec les insurgés. Il a tenté une grande union des braves, qui ne pouvait pas devenir, bien sûr.
Les grandes lois de 48, ce sont des lois donc sociales, c'est le droit au travail, la diminution du temps de travail.
C'est l'adoption du suffrage universel, ce sera l'abolition de l'esclavage, proclamation donc de la République, mise en place d'un débat libre, multiplication de la presse.
L'abolition de la peine de mort. Et 1848, c'est voulu l'envers de la Révolution qui a abouti à la terreur de celle de 89. C'est pour ça qu'on a dit abolition de la peine de mort pour raison politique, parce qu'il ne voulait pas être assimilé à la terreur, dans la mesure où 1793 était quand même la référence des révolutionnaires quand ils voulaient la République démocratique et sociale.
C'est aussi des avancées sur la condition des femmes, même si ça avortera. Bon, c'est une expérience politique constante. C'est la tentative pour imposer une économie fondée sur le crédit, ce qui est tout à fait nouveau. Donc il y a toute une série de tentatives sociales, socialistes, socialisantes, dont l'échec sera évidemment médité et remâché peut-être par la suite. Mais c'est un laboratoire à la fois économique et politique tout à fait extraordinaire. Et donc cet échec a été à sa manière fondateur.
On peut corrompre les hommes par petits groupes. On ne peut pas les corrompre en masse. On empoisonne un verre d'eau. On n'empoisonne pas un fleuve. Une assemblée est suspecte. Une nation est incorruptible comme l'océan.
Très bien. Oui, bravo. Oui, bravo. Bravo.
Belle image. Il est en grande forme oratoire.
Oui, quand il est monté à la tribune, je l'ai trouvé vieilli, creusé, blanchi. Mais je dois reconnaître qu'il n'a rien perdu de son éloquence. Il est en train de retourner l'assemblée.
Eh bien, c'est dit. Le président de la République sera élu au suffrage universel.
Oui, vous vous rendez compte? 9 millions d'électeurs. Tous les Français auront le droit de choisir le président de la France.
Tous les Français, mais pas votre épouse ni la mienne.
Vous voudriez qu'une femme vote?
Et j'en connais qui réclament ce droit, figurez-vous. Mais il ne faut quand même pas exagérer. Ce serait ridicule.
Ensuite, il y a eu ce qui s'appelle des tractations policières, des tractations militaires, qui ont fait que les journées de juin, en partie, sont advenues. C'est-à-dire que, techniquement, Lamartine a été démuni face au pouvoir militaire qui a été investi de la sécurité et de la police et du maintien de l'ordre. Il lui a été imputé ensuite d'avoir permis les massacres. C'est vrai qu'il ne les a pas forcément tenté de les empêcher, mais pouvait-il le faire? C'est comme la terreur pendant la Révolution française. Quand le sang se met à couler, quand vous avez des meurtres de masse, puisque les journées de juin ont été l'occasion d'un meurtre de masse, vous avez une remise des pendules à l'heure qui oblige à un sacrifice d'une certaine partie du personnel révolutionnaire. Et Lamartine a fait partie des perdants. Les journées de juin, c'est la tentative, par les armes, de résoudre ce divorce, cette schizophrénie entre la Chambre et le pays. Du moins, c'est l'interprétation qu'on peut en donner depuis le point de vue de Lamartine, qui s'est retrouvé au sein de cette Chambre isolée, inclus dans la frange la plus modérée, la plus insurrectionnaliste, alors qu'il était celui qui voulait s'en défendre oralement le plus. Il a incarné ce clivage au sein de la Chambre après l'élection de la Chambre de mai. Lamartine, après les élections présidentielles de décembre, est un mort-vivant à la Chambre. Il est toujours là, il parle, il a une voix, il tient des discours. Et en même temps, il est éteint, il est désactivé. Il n'active que la raillerie, que l'insulte, que le mépris. Les discours sont très intéressants. Ils sont très intéressants parce que il a été un des orateurs les plus courageux contre Louis-Napoléon, qui allait faire advenir le coup d'État le 2 décembre 1851. Et il n'a pas été le seul à parler contre Louis-Napoléon, mais c'est lui qui a parlé avec le plus de talent. C'est lui qui, se voyant peut-être comme un autre lui-même, c'est lui qui a parlé contre l'avènement du coup d'État avec le plus de force. Et avec un tel mépris en retour.
Il n'est pas tout à fait encore mort, quoi. Il bouge encore après 48.
Il bouge plus après 48. Il bouge pour ceux qui le lisent aujourd'hui. Il bouge pour moi quand je lis ses discours. Mais il ne bouge plus pour ses contemporains. C'est une baudruche, un épouvantail, qui par ailleurs défraie la chronique avec ses problèmes d'argent.
On sera pas très méchant après lui, même ceux qui n'y croyaient pas beaucoup. Vont garder plutôt un silence pudique, parce que l'échec de Lamartine, c'est d'une certaine manière l'échec du romantisme, en lui-même, dans cette idée de pouvoir concilier utopiquement le réel et l'idéal, et encore une fois, de contraindre le réel à un idéal a priori que définit Lamartine dans ses grands poèmes ou dans ses grands discours. Et lorsque le moment du réalisme en politique comme en littérature sera venu, il n'y a plus de place pour Lamartine.
Alphonse de Lamartine, La politique lyrique. Avec Aurélie Foglia-Loiseleur, Dominique Dupart, Alain Vaillant et Michel Rio-Sarcé. Lecture, Anne de Peuffio. Prise de son, Yann Fressy, Christophe Papon et Yves Le Horse. Mixage, Delphine Baudet. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Archivina, Véronique de Saint-Pastou. Coordination, Christine Bernard. Merci à Gaël Rio du Musée de la vie romantique à Paris. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Assia Khalid.
Réécouter ou télécharger cette émission sur franceculture.fr, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral et Julia Martin.